La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Martine Lecause. Vous publiez Histoire des prophètes dans le Coran aux éditions El Bourak. Bonjour.
Bonjour.
Alors Martine Lecause, vous êtes écrivaine, poète, peintre, et votre ouvrage appartient à la catégorie des beaux livres, des textes très beaux qui nous racontent la vie des prophètes qui figurent dans le Coran, avec des extraits de nombreuses sourates en français et en arabe, mais aussi des poèmes que vous avez composés. Vous nous proposez aussi un choix prodigieux d'illustrations que vous avez réalisées. Plus qu'un beau livre, j'ai envie de dire que c'est un ouvrage qui est une œuvre d'art. C'est le fruit de 10 ans de travail. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire comment est née cette œuvre ?
Oui, je peux vous en parler. Et puis c'est un bonheur d'en parler parce que il est le fruit d'une confiance spontanée et puis qui a duré et qui dure toujours. Avec la maison d'édition Al Bourak, mais je ne savais même pas qu'il s'agissait d'une maison d'édition. Je m'étais rendue à la petite librairie de Lorient, en face de l'Institut du Monde Arabe, à la recherche de livres sur l'émir Abdelkader, parce que j'avais écrit moi-même 2 livres sur l'émir. Il a séjourné pendant 4 ans à Amboise, un séjour forcé. Et j'habite au pied du château où il était détenu. Donc j'ai grandi aussi avec l'émir. J'ai toujours su que nous avions l'émir parmi nous. Donc j'ai vu qu'il y avait sur les rayons l'un des livres qui s'appelle Le Jardin d'Orient. Le Jardin d'Orient, c'est le titre que j'ai donné en référence au cimetière musulman que l'on peut trouver dans l'enceinte du château d'Amboise. Un cimetière qui a été réalisé par Rachid Qorachi en hommage aux personnes de la suite de l'émir qui sont décédées au cours des 4 ans de leur séjour, entre 1848 et 1852. Et puis, simplement, la conversation s'est engagée entre Monsieur Mansour et puis ses 2 filles étaient présentes, Fida et Rania. Ils m'ont offert le thé. Et puis, j'ai pris l'habitude de venir comme ça plusieurs fois de suite, parce que j'allais à Paris de temps en temps, et chaque fois, je m'arrêtais là, et on reprenait notre conversation amicale. Et puis, un jour, il a été question de dessins, de livres illustrés, mais je ne savais pas encore qu'ils étaient éditeurs. Et puis, finalement, ils m'ont dit, mais puisque vous dessinez aussi, est-ce que vous seriez prête à illustrer l'histoire des prophètes ? Et puis, il se trouve que j'ai commencé à dessiner. Et alors là, j'étais tellement transportée d'enthousiasme que je me disais, mais oh là là, qu'est-ce qui arrive? Et puis, bon, vous voyez, nous nous sommes retrouvés à Paris. Et puis, tout le monde était bouleversé. Et puis, j'ai commencé cette illustration. Je crois que, oui, c'était en 2009. Et puis, il y a eu quelques années, avec un arrêt pour quelques années, pour différentes raisons, pas du tout concernant notre entente, qui était toujours là. D'ailleurs, l'amitié circulait toujours, les nouvelles aussi. Je me suis rendue maintes fois en Inde dans cet intervalle, et j'ai retrouvé l'islam sous d'autres formes, en Inde du Nord, et puis aussi à travers la rencontre de musiciens du Rajasthan, musulmans, mais qui avaient l'habitude aussi de jouer avec des hindous. Enfin, vous voyez, c'était toujours l'amitié. Enfin, c'est ce que l'art permet. En musique et puis en dessin aussi, j'ai eu maintes fois l'occasion de le vivre. Maintes fois. En Inde, en Afrique, au Mali, il y a maintenant des années. Et puis, vous voyez, avec l'islam, les illustrations anciennes de l'Inde moghole sont tellement... tellement merveilleuse qu'elle m'habite tout le temps.
Martine Lecause, il faut que l'on parle de ces illustrations qui sont d'une beauté stupéfiante. Vous êtes une grande artiste, on est saisi par la force des détails. Il y a les visages humains, les animaux, les formes géométriques. Oui. Il y a des correspondances à la fois avec la calligraphie arabe, l'art égyptien, l'art moghol dont vous venez de parler.
Beaucoup
de sources d'inspiration et en même temps une grande unité, une grande cohérence. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces illustrations? Quelles techniques avez-vous employées et comment êtes-vous parvenu à cette harmonie?
Mais là, écoutez, vous êtes, ça fait du bien d'entendre ce mot d'harmonie parce que c'est un souci que j'avais parce que comme j'ai toujours dessiné, j'ai progressé aussi pendant ces années, toutes ces années. Et l'intention du départ, c'était de réaliser un livre plutôt pour les enfants. Mais et quand nous avons repris notre projet et puis vraiment avec la ferme intention cette fois de le mener à bien, enfin évidemment autant que le ciel voulait bien le permettre, eh bien je me suis dit mais il y a des dessins qui ne peuvent plus correspondre si on change un peu de perspective, si on dépasse le cercle des enfants. Il y a des dessins que je vais refaire. Donc j'en ai refait plusieurs. Et pourtant, les éditeurs étaient tellement généreux. Ils me disaient, mais non, c'est bien. Mais je me dis, non, il faut harmoniser. C'était un souci constant. Et même aujourd'hui, je me dis pour deux ou trois, ici, peut-être que... Enfin, vous voyez, ça, c'était mon souci. Ben, écoutez, peut-être que c'est à peu près... obtenu. Et les poèmes que vous avez bien voulu remarquer, ils étaient là aussi pour moi, pour qu'on soit en paix dans l'esprit. J'avais toujours besoin de revenir à la paix intérieure. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, il y a les récits que j'ai simplifiés, j'espère les avoir rendus simples, mais j'avais besoin qu'on retrouve l'esprit. Et l'esprit qui nous a animés tous, parce que pour moi, c'est vraiment une collaboration. Vous voyez, je ne pouvais pas trouver tous ces versets du Coran. C'est notre entente avec les éditeurs, Fida Mansour en particulier, parce que c'est elle qui a suivi de très près l'ensemble, mais c'était aussi son père et sa sœur. Sans notre accord à nous, eh bien, le livre n'aurait jamais existé. Et c'est pourquoi je crois qu'il fait du bien, vous voyez, même quand il est fermé, posé là dans une maison, j'ai l'impression qu'on sent la paix qui va avec, parce que c'est celle qu'on a vécue tout le temps et que je vis toujours.
Et donc il y a plusieurs portes d'accès à la vie des prophètes dans ce livre, les récits, vos poèmes, les sourates et les illustrations. C'est un livre qui peut se lire dans n'importe quel sens, si je puis dire.
Oh ben écoutez, tant mieux, parce que c'est l'impression qu'il me donne. Je l'imagine dans une maison, au milieu d'une famille, alors les enfants peuvent regarder dedans, mais tout le monde peut l'ouvrir, enfin c'est ce que j'espère. Il a été réalisé avec un tel soin, mais je suis tellement reconnaissante, je n'aurais jamais imaginé un livre aussi beau. Mais jamais, enfin vous voyez, et encore une fois, l'esprit qui nous animait tous.
Qu'est-ce qui différencie les récits bibliques des récits coraniques quand il s'agit de ces prophètes?
Oui, bien sûr, quelquefois l'histoire n'est pas présentée de la même façon, et quelquefois aussi le Coran est silencieux. D'ailleurs, il est agréable aussi, ce silence. Je pense à un passage qui m'avait beaucoup frappé parce qu'on ne le lisait pas tel quel dans la Bible. C'est que, vous voyez... Abraham qui mène son fils, ils sont tous les deux, ils marchent côte à côte, et le Coran fait dire à Abraham, mon fils, j'ai entendu en songe que l'on me demandait de t'immoler. Qu'en penses-tu? C'était tellement direct et clair et simple aussi, ça m'a secoué très fort. Mais la précision de quel fils s'agit-il n'est pas donnée à ce moment-là. Je ne me suis pas senti mal du tout. Entre les textes bibliques et les textes du Coran. Ça ne me permettrait pas, vous voyez, je ne connais pas du tout suffisamment bien les textes coraniques. Ils me laissent dans une impression de force, ils me laissent dans une sorte de silence. Je ne me permettrais pas la moindre remarque. Alors que quelquefois la Bible m'a mise en colère, vous voyez, pour un endroit ou l'autre. Mais je n'ai pas du tout cette attitude... je ne peux pas... Non, c'est surtout le silence, comme le même silence que celui que je Je voudrais rejoindre quand il s'agit, par exemple, de la personne de l'émir Abdelkader à Amboise.
Martine Lecause, votre travail s'inscrit dans une perspective fraternelle. La transmission et le lien sont importants pour vous. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'Abraham, Ibrahim, et vous écrivez « L'Éternel a confié aux deux fils d'Abraham l'héritage de sa parole ». Abraham, Ibrahim, c'est un prophète qui peut réconcilier tous les peuples.
Oh oui, j'espère. Enfin, en tout cas, pour tout ce pan de civilisation, oui. Oui. Nous parlons pas de l'Inde ou de l'Extrême-Orient, mais oui, pour tout, comme on disait, les gens du livre.
Les gens du livre, justement, Martine Lecause, pour que l'on comprenne bien de quel prophète on parle dans ce livre, il y a Adam, Adam en arabe, Enoch, Idriss en arabe, Abraham, Ibrahim en arabe, Moïse, Moussa en arabe, ou encore Jonas, Younous, Jean-Baptiste, Yahya, Jésus, Issa, et bien sûr le dernier des prophètes, Mohamed. La liste est bien plus longue, et ce qui est saisissant, c'est de voir véritablement les correspondances entre l'Ancien Testament et le Coran.
Vous voyez, vous avez cité Enoch, par exemple, dans la Bible, nous ne trouvons pas Enoch, c'est un livre apocryphe, enfin considéré comme ça. Donc nous pouvons lire le livre qui s'intitule le livre des secrets d'Enoch, mais je l'avais lu celui-ci, donc en dehors de la Bible, si bien que j'étais très contente de le retrouver ici, avec grâce au Coran. J'en étais très heureuse. Vous avez remarqué que plusieurs histoires n'ont pas été encore illustrées, et donc nous espérons beaucoup pouvoir poursuivre cette illustration et puis compléter ce grand livre.
Quelles sont les techniques que vous avez employées pour les illustrations? Avec quelle matière avez-vous travaillé?
Je travaille très très souvent comme ça. C'est le crayon de papier, de l'encre souvent, encre noire de Chine ou encre sépia, et puis de la gouache. Voilà, c'est tout simple, et je n'ai jamais suivi aucun cours de dessin. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir illustratrice, vous voyez, et puis c'est maintenant. Mais j'ai toujours dessiné.
Martine Lecause, vous avez écrit deux livres sur l'émir Abdelkader, qui était un grand sage algérien. En plus d'avoir combattu les Français dans la première partie de sa vie, on se rappelle aussi qu'il avait sauvé les chrétiens de Damas. L'émir Abdelkader vous a accompagné dans ce travail autour des prophètes dans le Coran?
Ah oui. Mais je crois qu'il m'accompagne un peu comme Jésus m'accompagne. Comme on dit, ce sont des amis pour vivre, ce sont des compagnons pour vivre. C'est pour sa droiture, la droiture de l'émir. Et puis les deux choses qui me touchent chez l'un et chez l'autre, c'est qu'ils se sont souciés des malades autour d'eux. On sait que l'émir soignait les malades qui étaient proches de lui, parmi ses soldats sur le champ de bataille. Il a soigné aussi ses chevaux. Et au jardin d'Orient, justement dans l'enceinte du château d'Amboise, peut constater que Rachid Koraïchi a tenu à ce que des herbes médicinales soient plantées. Il voulait qu'il y ait des plantes médicinales. Donc elles doivent être toujours des plantes médicinales et pas du tout des plantes décoratives. C'était pour évoquer cette particularité de l'émir. Et la guérison des malades, c'est quelque chose de très humble, très discret, et que l'émir a pratiqué toujours.
Merci Martine Lecause. Je rappelle que vous publiez Histoire des prophètes dans le Coran, un livre absolument magnifique. Il est publié aux éditions Albourac. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci beaucoup à vous.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.